L'invité de notre podcast est Gilles Daoust. Il incarne la troisième génération à la tête de l'entreprise du même nom. Née en 1954 et spécialisée dans la gestion des ressources humaines, l'entreprise Daoust jouit d'une belle croissance depuis plusieurs années et cumule les récompenses. L'entreprise en chiffres, c'est environ 50 000 personnes mises au travail chaque année, ce qui équivaut à 8 300 équivalents temps plein. C'est plus de 400 collaborateurs permanents et 50 job centers. L'homme en chiffres, cela pourra aussi marcher, car au-delà des récompenses saluant ses talents de CEO, la dernière en date étant le Young Top Manager attribué en 2018, Gilles Daoust est un poly-entrepreneur qui assume nombre d'activités. Producteur de cinéma, scénariste de BD, chroniqueur, cofondateur de la chaîne d'info en continu LN24, metteur en scène de l'Homme Gang, et on pouvait presque s'y attendre, auteur d'ouvrages sur le management. Gilles Daoust assume sa boulimie. Il le dit lui-même, il est un ONI, objet entreprenant non identifié. Il nous explique tout cela dans un instant.
Dans Let's Talk, la FEB vous fixe rendez-vous avec une figure clé du monde entrepreneurial en Belgique. Qui se cache derrière la femme ou l'homme chef d'entreprise ? Quel est le moteur qui l'a ou le pousse à faire tourner son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Est-ce la passion des chiffres, les gènes ou bien l'ambition ? Let's Talk vous propose de découvrir une personnalité du monde du business, devant et derrière les coulisses. À écouter chaque dernier jeudi du mois.
Je pense qu'on a tendance, et certainement à notre époque, dans notre société, très très dominée par le digital, les emails, les réseaux sociaux, etc. On a tendance à se laisser enfermer, en fait, dans une bulle, dans un tunnel. Et moi, en tout cas, dans mon parcours un peu particulier, le fait, par exemple, de diriger d'une part une entreprise d'une certaine taille qui est active que en Belgique et d'autre part de diriger une boutique Title Media qui est active dans le cinéma uniquement à Los Angeles, c'est super intéressant parce que on sort complètement de sa zone de confort pour devoir s'occuper d'autres problèmes dans un autre environnement avec d'autres gens dans une autre langue éventuellement et c'est souvent là que les problèmes se décantent.
Gilles Daoust, bonjour.
Bonjour.
Gilles Daoust, vous avez repris en 2015 les commandes de l'entreprise familiale Daoust, spécialisée dans la gestion des ressources humaines, dont vous incarnez la troisième génération de patrons. Comment s'est passée la transmission de l'entreprise ? Qui dit transmission dit aussi souvent transition, changement, transformation ?
Oui, bah écoutez, je pense que ça s'est bien passé. Enfin, faudrait peut-être demander à mon père ce qu'il en pense et à nos collaborateurs. Mais oui, je pense qu'en fait, la clé, je dirais, du succès de la transmission de l'entreprise, c'était de bien la préparer. Moi, j'ai intégré Daoust en 2010, en parallèle de mes autres activités, en me focalisant d'abord sur le marketing et en élargissant progressivement mon scope à d'autres départements, à d'autres projets pendant 5 ans. Et en 2015, mon père m'a passé le témoin en tant que CEO et il a eu l'élégance de vraiment passer le témoin, c'est-à-dire qu'il n'a plus occupé ce poste, il n'a plus été impliqué dans la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et je pense que le fait d'être passé par ces étapes, cette progressivité, j'ai envie de dire, familiarisation avec l'entreprise, avec les collaborateurs, etc., a permis finalement de s'accorder, moi forcément d'apprendre l'entreprise et de développer un peu mon scope progressivement. Et nous deux, en tant que chef d'entreprise, avant-après, de nous accorder, de tester, de discuter de différentes stratégies, de différents éléments, de sorte à l'issue de cette transition, de finalement d'être parfaitement aligné.
Le chiffre d'affaires de Daoust a été multiplié par 8 en 20 ans, passant de 32 millions en 2000 à 250 millions en 2019, année durant laquelle l'entreprise a mis plus de 50 000 personnes au travail. Mais sur quoi une telle croissance repose-t-elle, puisqu'elle est purement organique, il n'y a pas de fusion, acquisition ?
Sur l'esprit d'entreprendre. Et on y croit très fort chez Daoust. Pour nous, tous nos collaborateurs, tous nos managers certainement, et je pense tout le monde, est un entrepreneur. C'est vraiment l'esprit qu'on essaie d'inculquer et de développer à travers toute une série de stratégies. Et c'est en lien aussi avec nos valeurs qu'on exprime à travers deux slogans, Welcome to the Family et We Love Solutions, qui vraiment symbolisent cette sorte de combinaison entre tous les bons côtés de l'entreprise familiale et vraiment des valeurs d'entrepreneuriat, d'innovation, d'orientation client. Et ça, c'est un modèle qui a fait que finalement, on a donné des chances à nos collaborateurs de se développer, de lancer leurs propres initiatives, leurs propres idées. Et tout ça, finalement, a créé un cercle vertueux qui conduit à la croissance de l'entreprise.
On aura l'occasion de revenir sur votre fibre entrepreneuriale. Le cœur de métier de Daoust, c'est tout le spectre des ressources humaines. C'est l'intérim, le recrutement et la sélection de personnel, l'outplacement, la gestion des titres-services, le job coaching et encore la préparation à un emploi dans le secteur public. Est-ce qu'il y a comme corollaire à ce très large éventail aussi un large public en termes de génération?
Oui, tout à fait. On aime bien dire qu'on accompagne les travailleurs à toutes les étapes de leur vie professionnelle. Et c'est clair que certains de nos métiers sont plus orientés pour les personnes plus jeunes, par exemple, que d'autres. Mais je dirais qu'il y a vraiment une continuité. Et ça, c'est l'avantage d'une entreprise qui est 360 degrés, je dirais, dans les ressources humaines. Dans l'intérim, on va de manière générale pouvoir travailler dès le plus jeune âge. J'ai envie de dire, on commence par les jobs d'étudiants, puis après ça, les missions d'intérim qui dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, donnent lieu à un engagement fixe. On fait le recrutement, on fait les titres-services qui, mine de rien, à la fois donnent de l'emploi à énormément de personnes en Belgique, mais par ailleurs contribuent, je dirais, à l'équilibre vie privée-vie professionnelle des autres travailleurs, puisqu'ils nous permettent de bénéficier d'un logement dont on a pris soin, dont nos aménageurs prennent soin, ce qui nous donne plus de temps libre. Et évidemment, l'autre côté du spectre, c'est le career management avec l'outplacement, le job coaching, où on accompagne là des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont en fin de carrière, ainsi que toute une série de catégories de la population qui cherchent un emploi et qui font partie de catégories spécifiques. Donc vraiment, l'accompagnement, il est total. Et je dirais qu'on est fiers de pouvoir être présent à différents moments de la carrière d'une personne. C'est pas rare du tout que quelqu'un qu'on rencontre, que ce soit moi, que ce soit mes collaborateurs ou les consultantes en intérim qui travaillent dans nos agences, rencontrent quelqu'un qui a déjà travaillé pour Daoust ou avec Daoust ou fait l'objet d'un coaching de Daoust il y a 20 ans. Et ça, c'est vraiment une fierté parce que mine de rien, on se rend compte qu'à travers, oui, les 50 000 personnes différentes qui sont mises au travail par Daoust chaque année, il y a vraiment au fil des années, maintenant presque 70 ans finalement, un énorme panel de la population qui a collaborer avec nous. Et je pense que c'est vraiment une fierté un peu partout dans l'entreprise. Ouais.
Daoust, vous les avez évoqués, s'identifie à travers deux signatures, Welcome to the Family et We Love Solutions. Le nom d'une entreprise, en fait, s'accompagne habituellement d'une accroche corporate. Et pourquoi deux chez vous?
Alors, c'est une très bonne question et c'est tout à fait voulu. Et ça représente tout à fait ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où ça... Pour nous, ce qui est important, c'est l'équilibre entre les deux valeurs. Welcome to the Family, c'est tous les bons côtés de l'entreprise familiale, un focus sur les valeurs humaines, sociétales, de diversité, environnementale, etc. We Love Solutions, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'orientation client, la flexibilité qui est héritée de nos métiers, notamment l'intérim, et l'innovation. Et donc, ce qu'on cherche à obtenir dans tout ce qu'on fait, c'est un équilibre entre les deux, c'est-à-dire être profondément humain, mais aussi être efficace et être entrepreneuriaux. Je pense que si on avait un seul baseline, eh bien, on aurait tendance à peut-être être caricaturisé en disant « Ah, ils sont welcome to the family, donc magnifique, tout le monde est gentil ici, on est cool, etc. » Et là, ça peut avoir des travers, on devient moins efficace. À l'inverse, si c'était seulement We Love Solutions, bah, on pourrait avoir un moment une culture qui se dit « Tiens, tout ce qui compte finalement, c'est le commercial, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité, peu importe. » Et donc, on risque d'avoir une culture un peu cow-boy. Et donc, le sens de ces valeurs que moi je représente toujours dans les documents en interne sur une balance, un peu la balance de la justice, c'est de toujours, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos choix, être suffisamment Welcome to the Family et suffisamment We Love Solutions.
Gilles Daoust, l'accord de gouvernement fédéral vise un taux d'emploi de 80% en 2030. Le marché belge du travail se caractérise, le fait n'est pas nouveau, par une forte inadéquation entre l'offre et la demande. Quelques 120 000 postes ne trouvent de façon permanente pas preneur. Quel rôle joue, ou pourra encore davantage jouer, les divers instruments qu'offre une entreprise comme Daoust dans cette problématique?
Bah, Je pense qu'on a tendance à sous-estimer un peu le rôle des entreprises de ressources humaines dans la problématique de l'emploi. On a vraiment un rôle de facilitateur. On a un rôle de matchmaker, de trouver finalement la bonne opportunité pour le bon travailleur dans la bonne entreprise, et inversement. Et c'est clair que mes équipes et celles de mes concurrents, de mes conculègues, comme on dit évidemment, sont dans les tranchées du marché de l'emploi, sont en contact direct avec le marché de l'emploi. Et c'est vrai que parfois, quand on lit dans les journaux, dans les magazines, dans les médias, les grandes tendances du marché de l'emploi, la plupart du temps, nous les connaissons déjà de manière intuitive, puisque c'est vécu vraiment au quotidien. Alors évidemment, il y a toute une série de grands problèmes macroéconomiques qui doivent être réglés par des actions, des décisions politiques. Mais je pense que la liberté qu'ont les entreprises de ressources humaines pour justement jouer ce rôle de facilitateur, faire jouer la flexibilité, mais... Quand on parle de l'intérim, ce n'est pas que de la flexibilité pure, c'est la flexibilité en vue de fixe. Il faut savoir que plus de 50% des intérimaires trouvent un emploi en CDI via leur mission d'intérim. Donc c'est un rôle crucial. Et moi, je dis toujours à mes équipes qu'on doit être fier du rôle sociétal qu'on joue et qui n'est peut-être pas suffisamment mis en évidence. Parce que grâce à nous, pas mal d'entreprises trouvent des solutions, pas mal de travailleurs ou de chercheurs d'emploi trouvent des solutions. Et c'est aussi les entreprises de ressources humaines qui donnent au marché de l'emploi son dynamisme. Parce qu'un marché de l'emploi, ce n'est pas quelque chose de figé. On n'est plus dans une époque où on travaille 35 ans pour la même entreprise, toute sa carrière dans la même entreprise. Ça peut évidemment exister, c'est magnifique, mais la réalité d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle-là de manière générale. Et donc, cette flexibilité, cette évolution dans les carrières, cette capacité à se réinventer, elle existe aussi via des acteurs comme nous. Ouais.
La rétention des travailleurs, en particulier des jeunes talents, est souvent pointée par les entreprises comme étant un vrai challenge. Comment motive-t-on aujourd'hui les jeunes, et je songe aussi ici aux moins de 25 ans, à véritablement s'engager dans une entreprise et à y envisager une carrière? Je m'adresse ici à vous en tant que prestataire de services RH pour les entreprises, mais aussi à vous en tant que CEO d'une entreprise.
Oui, donc moi, je dirais que mon cheval de bataille, c'est les valeurs. Et je pense que la jeune génération, on le dit souvent, a besoin de sens, a besoin de valeurs, a besoin d'équilibre. Je pense que pour pouvoir considérer la possibilité de faire une partie de sa carrière, une partie significative de sa carrière dans une entreprise, pas forcément toute sa carrière, mais la jeune génération a besoin de pouvoir se projeter sur le long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de se voir expliquer et proposer une vision à long terme. Si on est dans une entreprise où on a l'impression que les tables tournent tout le temps et que finalement la carrière, développer sa carrière n'est pas quelque chose qui est vraiment possible, comment pourrait-on soi-même s'investir en se disant oui, mais quelles sont mes perspectives ? Est-ce que moi je vais me faire jeter dans 3 ans, etc. Donc il y a un peu de donnant-donnant, j'ai envie de dire. Et je pense que cette notion justement de dire clairement aux gens qu'ils peuvent développer leur carrière dans l'entreprise et de le démontrer sur le long terme avec un track record, c'est quelque chose qui, en tout cas, dans notre cas, a bien fonctionné. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que cet esprit d'entreprendre qui permet à des gens de rentrer chez nous dans une position d'officeur, de consultant, puis de devenir progressivement manager, éventuellement d'ouvrir une agence pour nous, etc., etc. Ça, c'est par exemple un défi, je pense, qui parle particulièrement aux jeunes et qui leur permet de se projeter sur le long terme. Alors que ce long terme soit pour eux de 3, 5, 10 ans, 20 ans, peu importe, ça dépend des gens. Mais je pense que ça, c'est le pas vers les gens que les entreprises doivent faire.
Il y a donc une bonne partie de la solution qui est du côté des entreprises.
Je pense que c'est les entreprises qui doivent effectivement se rendre compte que peut-être, dans certains cas, effectivement, si on ne donne pas l'impression aux travailleurs, aux collaborateurs, qu'ils auront leur place à long terme, eh bien, ce sera ressenti et c'est peut-être le travailleur qui va tirer le premier et qui va se tirer en premier. Parce que même si c'est pas toujours agréable, eh bien oui, chacun doit gérer sa carrière.
L'esprit d'entreprise n'est pas l'affaire de quelques élus qui en auraient les dispositions face à d'autres qui en seraient dépourvus. Vous, et cela ressort assez souvent de vos propos, vous dites que cette faculté d'entreprendre, elle est chez tous. Et vous exhortez même tout un chacun à entreprendre sa carrière. Le travailleur belge n'est pas suffisamment artisan de sa carrière ?
Si, alors d'abord j'adore cette expression entreprendre sa carrière, je trouve ça résume bien en fait notre époque, parce que finalement les carrières sont longues, elles sont multiples et je pense qu'il faut pouvoir se réinventer. Je pense qu'il y a effectivement en Belgique, en Europe, parfois une certaine illusion de confort qu'on peut avoir quand on est salarié et une tendance qu'on peut avoir à se, entre guillemets, à se reposer sur ses lauriers et à se dire « Ok, je suis dans une position qui me convient, j'ai une rémunération qui est correcte, qui éventuellement évolue avec le temps, éventuellement des responsabilités qui évoluent progressivement. Ok, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je serai dans 5 ans, qu'est-ce que je serai dans 10 ans, dans cette entreprise ou ailleurs, dans cette fonction ou ailleurs, et comment est-ce que je peux me former pour développer mes compétences ? Et ça, pour moi, c'est la responsabilité de chacun. Et ça rejoint cette notion d'entreprendre sa carrière, c'est de se former en permanence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire, ça veut dire suivre des formations, ça veut dire se documenter. Toutes les sources d'information et de formation et de lecture qu'on peut trouver aujourd'hui sont innombrables comparé à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Là, je pense que l'Internet a vraiment ouvert des possibilités, mais c'est la responsabilité de chacun. Si on se contente, entre guillemets, de suivre les formations qu'offre l'entreprise ou qui sont disponibles de manière gratuite sans y consacrer forcément un peu de temps, de son temps libre, eh bien, malheureusement, il y a un moment où peut-être la carrière risque de se heurter à une limite. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus au fil du temps et du monde qui change et de la technologie qui n'arrête pas de changer aussi parce qu'elle évolue de plus en plus vite. La responsabilité du travailleur de prendre ça en main, ouais.
L'intérim, qui est un de vos secteurs, l'expertise reste très réglementée. On a l'impression qu'il demeure un mal-aimé du politique et des syndicats. Pour les employeurs, cependant, c'est un outil de flexibilité essentiel pour faire face aux variations d'activité. Comment est-ce que vous voyez son évolution ?
Bah, je pense que de manière générale, le monde devient de plus en plus flexible. L'intérim, le salariat, le freelancing, ce sont tous des modes de fonctionnement qui sont amenés à évoluer. Je pense qu'aussi, on le voit avec l'évolution de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, du télétravail, de certains nouveaux métiers, etc. Je pense que le monde va devenir de plus en plus flexible au fur et à mesure que, comme on le disait tout à l'heure, les jeunes ne se projettent pas forcément dans une carrière de 20 ans, de 30 ans, dans une même entreprise. Et donc, à partir du moment où on a un peu le phénomène des job hoppers, des gens qui changent de boulot tous les 2-3 ans fréquemment, eh bien, ça, c'est la réalité du monde. C'est une volonté de la population. Et donc, je pense qu'effectivement, faire face à cette flexibilité, embrasser cette flexibilité, sans qu'elle soit débridée, bien entendu, sans qu'elle soit cruelle ou inhumaine, bien entendu, il faut une protection sociale, il faut des garde-fous, il faut un cadre juridique, etc. Mais je pense que ça, c'est une vision moderne. Et c'est vrai que si on s'apprête quand même à faire face à des carrières peut-être un peu plus longues et multifacettes que ce qu'on a pu connaître pendant le XXe siècle, eh bien, je pense que la flexibilité doit être embrassée. Et le rôle, évidemment, des entreprises de ressources humaines au sens large est important là-dedans.
Et si vous deviez résumer en quelques constats majeurs votre analyse du fonctionnement du marché du travail, quel serait-il ?
On est un peu à la croisée des chemins, je pense. Le monde dont je viens de parler, il est là, mais il n'est pas encore vraiment dans les mentalités. Moi, il y a 3-4 points qui me tiennent fort à cœur. D'abord, et je ne suis pas le seul, c'est la thématique de la formation. Je pense qu'elle doit être bonne, d'abord dans les écoles, dans les hautes écoles, dans les universités, dans les formations professionnelles, etc. L'offre doit être large et elle doit être de qualité. Ça, c'est un défi qui, évidemment, est en grande partie public. L'offre, mais aussi la qualité. Après ça, la formation individuelle, comme je le disais il y a quelques minutes, ça, c'est une initiative personnelle. Par contre, on peut aussi influencer les mentalités pour pousser les gens à considérer que ça fait partie de leur boulot. Sinon, deuxième point, c'est pour moi, et ça, c'est un point plus politique, c'est la réalité de la différence entre le salaire brut et le salaire net. Et je dis bien entre le salaire brut et le salaire net. Donc je ne parle pas ici des charges patronales, dont on parle souvent, et certainement à l'AFEB, c'est vraiment un point. Mais au-delà des charges patronales, qui vont peut-être être considérées comme étant l'avantage des patrons, si on les diminue, il y a la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est-à-dire, en gros, la partie qui est à charge de la personne, du travailleur. Et cette partie est extrêmement importante. C'est un sujet qui n'est pas si souvent abordé, mais qui provoque malheureusement toute une série de pièges à l'emploi ou de pièges à la mobilité de l'emploi. Quand on voit que la différence nette entre le chômage et certains métiers n'est pas forcément gigantesque. Et aussi, dans les catégories entre 2 et 3 000 euros, on voit aussi que quand quelqu'un reçoit une augmentation salariale, son augmentation salariale brute, elle est importante, mais nette, elle est faible. Donc finalement, le principal bénéficiaire de cette augmentation salariale, c'est l'État. Et ça, c'est vrai que quand on souhaite à un moment se développer dans sa carrière, il va y avoir une progressivité dans les responsabilités, dans la rémunération, et on doit pouvoir être incentivé pour ça. Troisième point qui me tient à cœur, je ne vais pas en faire 20, j'en ai 2-3, c'est la mobilité des carrières et des fins de carrière. Je pense qu'on a, heureusement en Belgique, un système de protection du travailleur qui est fort. Après, je pense que vers la fin de carrière, quand on a accumulé des années d'ancienneté, on sait que si on est licencié, on va toucher un très lourd préavis de licenciement. Et donc, il y a parfois une tendance à attendre en se disant « Oui, mais bon, je ne vais quand même pas quitter mon emploi et faire une croix sur une indemnité de licenciement. Bon, je vais attendre, on va voir, etc. » Alors qu'en fait, d'un point de vue carrière, la personne aurait dû quitter. Et donc là, je pense qu'une fois de plus, il y a un peu un piège. Et certaines personnes, malheureusement, arrivent à un certain moment dans leur carrière à être un peu coincées. Le dernier point, puis je vous laisse tranquille, c'est la valorisation des métiers manuels. Nous, on est très actifs dans le blue collar chez Daoust. On y croit énormément et sur le long terme à l'avenir de ces métiers manuels, quel que soit le secteur. Et c'est parfois, malheureusement, des métiers, des secteurs qui ne sont pas suffisamment valorisés dans l'opinion publique. C'est des métiers magnifiques, c'est des techniques magnifiques, c'est de l'artisanat dans tous les sens du terme. Et j'entends la police qui vient m'arrêter, parce que je viens de dire des choses pas politiquement correctes.
Vous allez trop loin, décidément trop loin.
Je suis trop loin et trop long. Non. Et donc, voilà, je pense que là, il est temps de redorer, je dirais, l'image des métiers manuels qui sont en fait un vecteur d'avenir.
Gilles Daoust, on ne peut pas ne pas évoquer la crise du Covid. Quel a été son impact sur votre activité ?
D'abord, la crise du Covid a été difficile à gérer. Donc nous, on est une entreprise qui est active dans tous les secteurs, finalement, de l'économie en Belgique. Et il faut se rendre compte que l'évolution, le changement permanent qu'il y a eu dans les mesures Covid, où toutes les 15 jours, on a dû s'adapter à des mesures différentes, changeantes, avec parfois des technicités dans certains secteurs, et souvent, en fait, des impacts compliqués. D'abord, c'était un véritable casse-tête. Donc ça, il faut le savoir, il faut s'en souvenir. La crise du Covid évolue, mais une nouvelle crise, celle-ci ou une autre, peut nous tomber dessus demain. Et je pense qu'une des leçons à tirer, c'est qu'il ne faut pas rester dans un changement, dans un terrain glissant en permanence. Ça, c'est très dur pour tous les entrepreneurs, quel que soit le secteur. Alors après, concernant Daoust, on a connu, comme le secteur, en fait, un recul de 15% de nos activités en 2020. Inévitable, vraiment inévitable. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement que de le subir. On a eu des secteurs comme les titres services qui ont été mis à l'arrêt quand même pendant plusieurs semaines. L'intérim a fort souffert avec le lien avec la santé économique, et c'est tout à fait logique. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'en 2021, et on a clôturé récemment nos chiffres, on a rebondi et on est revenu à notre chiffre record de 2019, d'à peu près 250 millions d'euros. On a rebondi, on a dû se réinventer par moments, on a dû trouver de nouvelles manières d'aborder les choses et de trouver des solutions, parce que certains secteurs ont été quand même fortement impacté. Mais c'est une fierté, je pense, après une crise, 2 ans, on peut dire, qui ont été très difficiles à gérer, de pouvoir se dire qu'on est revenu à notre niveau d'avant et qu'on est reparti pour la croissance.
Et de manière plus prospective, comment voyez-vous l'après-Covid, puisque c'est clair que cette pandémie laissera certainement des traces au niveau de l'organisation du travail, un travail hybride, prépondérance du numérique. Autre indicateur de productivité et de performance, ce sera quoi l'après-Covid ?
Je pense que tout le monde se tâte et se cherche. On n'a pas de recul. On a expérimenté beaucoup pendant le Covid. Hein. C'était un peu le sujet de la conférence sur le télétravail à laquelle j'avais participé à l'FEB. Moi, ce qui m'obsède, c'est l'esprit d'équipe. Je pense que les entreprises, quel que soit leur secteur, sont des machines humaines, c'est-à-dire des organismes qui sont composés d'êtres humains. Et ce qui les fait avancer, c'est l'esprit d'équipe. Nous sommes tous des animaux sociaux. On n'est pas fait pour vivre sur des îles désertes. Évidemment, le Covid nous a permis d'expérimenter différentes techniques. Le télétravail en est une. Je pense que la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle restera toujours un thème important. Mais on a parfois un peu dû mettre de côté l'esprit d'équipe. Je pense à certains organismes ou entreprises où les travailleurs, les employés n'ont pas forcément beaucoup mis les pieds au bureau depuis 2 ans. Il n'y a rien à faire, il y a des impacts. Et donc, je pense que quelle que soit la manière dont on évoluera, cet esprit d'équipe doit être absolument au cœur de nos préoccupations. On ne doit pas l'oublier.
Vous l'avez évoqué, vous avez pris part à la conférence nationale sur le télétravail organisée par l'AFEB. Vous y avez exposé votre approche très pragmatique de cette nouvelle forme d'organisation du travail, en pointant en particulier certaines conséquences dommageables sur la personne, sa motivation, sa productivité. Et quelles sont les pistes pour arriver à un juste équilibre au bénéfice de chacun dans ce domaine ?
Je dirais que... Bon, j'ai déjà un petit peu évoqué certains éléments dans la question précédente, mais... Pour moi, ce qui m'a frappé, et me frappe encore aujourd'hui d'ailleurs, en ce début 2022, ce sont les impacts psychosociaux du télétravail. Donc évidemment, on met toujours en lumière, certainement dans la presse, les médias et en politique, les avantages. Les avantages, c'est évidemment une certaine flexibilité, un certain équilibre privé-professionnel, certainement pour les personnes qui ont des enfants ou des personnes qui ont des longs trajets pour aller au travail. Certainement, ce sont des avantages, mais on sous-estime complètement les effets psychologiques sur le long terme de l'isolement. L'isolement, c'est quoi ? C'est le fait que finalement, qu'on ait une grande maison avec un jardin, chance, ou un petit appartement avec une grande famille dedans, moins de chance. Se retrouver seul, c'est totalement différent en termes de dynamique personnelle que de se retrouver le matin à se lever, à prendre sa voiture ou son bus ou son tram ou son train, peu importe, d'aller au travail et de se retrouver entouré de collègues. Et notre biologie elle-même change, notre dynamisme, nos mouvements, pour ceux qui mesurent le nombre de pas qu'ils font sur une journée, tout ça a un effet positif, je pense, sur le dynamisme de la personne. Et donc, quand on se retrouve chez soi pendant de longs mois, avec très peu de contacts physiques et humains, je pense qu'on s'assèche un peu humainement, j'ai l'impression. L'esprit d'équipe, j'en ai parlé juste avant, pour moi, est absolument essentiel. Et donc, en fait, je pense que c'est une question de ne pas céder aux caprices, ni les caprices de l'entreprise qui dit « vous devez être là tous les jours à telle heure et partir à telle heure okay, », ça c'est du caprice à notre époque, ni le travailleur qui dit « je travaille quand je veux, d'où je veux ». C'est vraiment un équilibre entre l'entreprise, l'équipe, donc la petite équipe, avec son manager éventuellement, et le travailleur. C'est un win-win-win. Et un secteur n'est pas l'autre, une taille d'entreprise n'est pas l'autre.
Oui, vous aviez beaucoup insisté sur l'autonomie de gestion aussi.
Oui, oui, tout à fait. Oui, le one size fits all, c'est un thème qui est souvent évoqué à l'FEB. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre des décisions pour toutes les entreprises. Mm-hmm. Et même au sein d'une entreprise, certainement des très grandes, un département n'est pas l'autre, un lieu n'est pas l'autre. On peut avoir un département d'une entreprise qui est basé à Bruxelles, une situation de mobilité X, et un autre qui est basé en province et qui a une situation de mobilité Y. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle aussi l'autonomie de gestion, la liberté. Et ça, c'est un concept qui, en période de Covid, a été mis de côté. La liberté, et qui doit revenir au premier plan.
Gilles Daoust, serial entrepreneur, homme multiple, polyentrepreneur, patron atypique, ovni, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer votre fort penchant pour l'entrepreneuriat, on l'a déjà évoqué, car à côté de votre métier de CEO de l'entreprise Daoust, vous êtes aussi producteur de cinéma, scénariste de BD, chroniqueur pour l'Écho notamment, metteur en scène de L'Homme Gang. qui trop embrasse mal étreint, dit-on.
Ah ben non. Oui, qui trop embrasse mal étreint. J'aime bien OVNI, moi, je trouve ça chouette. Je suis un OVNI. Un ONI, un objet entreprenant non identifié.
Oui.
Non, mais en fait, oui, j'adore faire plein de choses. Mais il ne faut pas oublier et sous-estimer qu'en fait, toutes ces activités se sont accumulées sur une période de 20 ans. Donc moi, en fait, après mes études à Solvay, j'ai créé ma start-up dans le domaine du cinéma en 2003. J'ai consacré plusieurs années à faire que ça pendant les années 2000, avant de rejoindre Daoust en parallèle. L'Homme Gang, ça a commencé, j'ai repris la direction artistique en 2006, hein, ça fait plus de 15 ans maintenant. Et puis, toutes les autres activités entrepreneuriales, d'écrivains aussi, d'auteurs, se sont rajoutées par la suite. Et comme je le dis souvent, le tout, c'est de... Bon, d'abord, il faut la fibre, il faut l'envie, mais il faut aussi être capable de bien s'entourer et de ne pas dire « je veux tout faire moi-même, je suis, c'est moi ». Non, il y a des activités qu'on doit faire seul, hein, parce que quand j'écris seul, forcément. oui, j'écris tous mes articles, j'insiste. Mais il y a aussi d'autres activités, dans une entreprise notamment, où on doit se poser la question de qu'est-ce que je dois faire moi et qu'est-ce que je dois déléguer, qu'est-ce que je dois partager avec d'autres. Et ça a été un travail passionnant pendant ces 20 dernières années. Ouais.
Donc ce que vous nous dites, c'est que sur une période de 20 ans, c'est à peu près normal.
C'est pas normal. non, je ne suis pas normal. mais c'est faisable, oui, c'est faisable. C'est pas facile tous les jours, hein. J'ai des périodes très difficiles. C'est des périodes très difficiles quand par exemple, certains projets s'overlappaient, les deux crises dans deux activités différentes au même moment, parfois pas de chance. Mais on apprend de ça, on devient plus fort.
Oui, vous êtes, je ne l'ai pas dit, vous êtes aussi par ailleurs cofondateur de LN24, hein, la première chaîne belge d'infos en continu, dans laquelle vous avez investi à titre personnel. Quel a été le déclencheur là ?
Le déclencheur, c'était une rencontre, la rencontre avec Johan Condeit, qui était à l'époque le rédacteur en chef de l'Écho, et qui était dans le jury de l'entreprise de l'année en 2016, quand on a gagné l'entreprise de l'année avec mon père pour Daoust. Et avec qui j'ai lié une sympathie puis une amitié. Et quand il a monté l'idée de LN24, il m'a proposé effectivement de participer à sa création en tant qu'investisseur et partenaire fondateur. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Enfin, je savais tout le génie de Johan. Je pèse mes mots. Le projet était aussi un peu à la croisée des chemins pour moi entre effectivement la passion pour l'entrepreneuriat et l'audiovisuel qui m'a toujours préoccupé. Donc moi j'ai tout de suite dit oui, en fait j'ai toujours trouvé ça très intéressant.
En 2019, vous avez confié au magazine audio Bruxelles Métropole de Bessy que la plupart de vos idées pour Daoust, vous les pêchiez ailleurs, dans vos lectures, dans vos activités culturelles. Penser out of the box, toujours en hors de la sphère conventionnelle, c'est une réelle philosophie chez vous ?
Absolument, absolument. Je pense qu'on a tendance, c'est certainement à notre époque, dans notre société, très très dominée par le digital, les emails, les réseaux sociaux, etc. On a tendance à se laisser enfermer, en fait, dans une bulle, dans un tunnel. Et moi, en tout cas, dans mon parcours un peu particulier, le fait, par exemple, de diriger d'une part une entreprise d'une certaine taille qui est active que en Belgique et d'autre part de diriger une boutique Title Media qui est active dans le cinéma uniquement à Los Angeles, c'est super intéressant parce que on sort complètement de sa zone de confort pour devoir s'occuper d'autres problèmes dans un autre environnement avec d'autres gens dans une autre langue éventuellement et c'est souvent là que les problèmes se décantent. On dit parfois si vous avez un problème, surtout n'y pensez pas parce que non pas pour procrastiner mais parce qu'en fait la solution viendra d'elle-même. Moi, j'aime bien lancer mon cerveau sur un truc, lire, je ne sais pas, un document ou un truc le soir, et souvent, ne plus y penser, le lendemain matin, la solution arrive. Et donc, le fait d'être effectivement multi-projet me permet de m'aérer l'esprit. J'y crois beaucoup. Hein, ouais. Et lire aussi, hein, lire de tout.
Beaucoup.
Lire tout le temps et lire de tout, ça permet de trouver parfois des idées à des endroits où on ne... Je trouve parfois des idées de business dans des romans, hein, donc rien à voir, mais c'est... Ouais, ouais, j'y crois.
Vous lisez beaucoup et vous écrivez, comme vous l'avez dit. Hein. Gilles Daoust, on vous doit aussi un livre sur la fureur d'entreprendre. Hein. Je l'ai ici, Workaholic,
Work-a-lique, yes.
Sans conseil pour les jeunes entrepreneurs, enfin jeunes entre parenthèses, qui veulent travailler mieux, cela a été traduit en 3 langues, un livre où la fameuse règle des 80-20 occupe une place importante, expliquez-nous.
D'abord, Workaholic, je l'ai écrit pour moi. J'avais commencé au passage à la quarantaine, avec quand même 2-3 défis d'organisation avec toutes mes activités. Là. Et j'ai commencé à faire un peu les 10 commandements en me disant, tiens, je vais un peu noter les idées qui me permettraient de m'organiser mieux. Et puis, quelques mois plus tard, j'avais 150 commandements. Et je me suis dit, tiens... ça ferait un bon livre, donc je l'ai un petit peu élagué pour faire 100. Et en fait, oui, effectivement, ça vient de mon expérience de workaholic et de multi-entrepreneur, donc c'est un vrai défi d'organiser tout ça. Mais le constat, c'est que d'abord, je pense que quelle que soit notre activité, on a un défi d'organisation. Donc il faut bien s'organiser, organiser son temps avec soin, avec méthode, parce que le temps perdu, c'est toujours un peu dommage quand on a beaucoup de choses à faire. Deux, il faut bien s'entourer. Il faut se rendre compte qu'un one-man show, c'est très très bien, mais il y a un moment, le one-man show devient tellement grand que soit ça éclate, soit on éclate, soit la croissance s'arrête parce que c'est impossible de gérer ça tout seul. Donc bien s'entourer. Et la troisième chose, c'est de mettre son ego de côté. Et ça, j'ai appris à travers toute une série d'échecs et de difficultés que j'ai rencontrées ces 20 dernières années. Parce que, bon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir de l'ego, on doit être sûr de soi et avoir des idées, mais on ne doit pas manger son propre marketing, on ne doit pas se laisser aveugler. Et donc, effectivement, la règle des 80-20 que vous évoquez est toute simple et c'est une vraie vérité dans tout. C'est 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se transformer en glandeur et partir aux Bahamas, si on peut, pardon, et jouer au golf toute la journée. C'est pas ça, évidemment. Mais simplement, je pense qu'on perd énormément de temps dans la vie, quel que soit notre métier, à nous énerver pour des bêtises. Et on a mieux à faire avec notre temps. Et by the way, j'en profite, puisque Workaholic est un livre gratuit, hein, c'est vraiment fait pour le partage. Si nos auditeurs ne l'ont pas encore lu ou reçu, n'hésitez pas à écrire à l'adresse books@daoust.be, books@daoust.be, en mentionnant votre adresse et on vous l'offre avec grand plaisir.
Comme vous voyez, il y a déjà quelques petits post-it, donc il m'a déjà bien servi. Et alors, j'avais une dernière question. Ce livre, il s'adresse aux entrepreneurs, à ceux qui s'apprêtent à le devenir, à ceux qui agissent en entrepreneurs, mais n'en sont pas vraiment conscients. Qu'est-ce que vous diriez ou à tout un chacun peut-être.
Alors, il s'adresse à tout le monde, certainement, mais il est vrai que les conseils du livre sont plutôt adaptés pour les entrepreneurs, pour les CEO, les membres des comités de direction, c'est-à-dire que il faut pouvoir poursuivre 100% des conseils, ce qui est impossible. Il faut pouvoir disposer quand même relativement librement de son temps. Et je pense que dans pas mal d'entreprises, effectivement, il y a des horaires, il y a une série de règles par rapport à la manière dont on organise les réunions, par exemple, ce genre de choses-là. Et donc, effectivement, pour les managers et les collaborateurs des entreprises, certains conseils peuvent être éventuellement moins appropriés. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que je peux vous annoncer la sortie du livre suivant, qui va sortir dans les mois qui viennent, qui s'appellera Management, aussi avec un point d'exclamation, et qui, lui, est vraiment destiné aux managers et aux collaborateurs des entreprises, et qui s'inspire évidemment de Workaholic, mais je dirais qui peut s'appliquer dans un cas beaucoup plus large, un éventail beaucoup plus large de cas. Donc voilà, à suivre.
Nous avons hâte de le découvrir. Gilles Daoust, un tout grand merci.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast. Notez dès à présent dans votre agenda les prochains podcasts Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. Rejoignez-nous chaque dernier jeudi du mois et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet feb.be.